Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble dans Lectures en liberté pour la dernière lecture extraite du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Et nous retrouvons Bardamu dans une fête foraine. Et la musique est revenue dans la fête. Celle qu'on entend d'aussi loin qu'on se souvienne, depuis les temps qu'on était petit. Celle qui ne s'arrête jamais par-ci, par-là, dans les encoignures de la ville, dans les petits endroits de la campagne, partout où les pauvres vont s'asseoir au bout de la semaine pour savoir ce qu'ils sont devenus. Paradis, qu'on leur dit. Et puis on fait jouer de la musique pour eux, tantôt ci, tantôt là, d'une saison dans l'autre, elle clinque, elle moue tout ce qui faisait danser l'année d'avant les riches. C'est la musique, la mécanique qui tombe des chevaux de bois, des automobiles qui n'en sont pas, des montagnes pas russes du tout et du tréteau du lutteur qui n'a pas de biceps et qui ne vient pas de Marseille, de la femme qui n'a pas de barbe, du magicien qui est cocu, de l'orgue qui n'est pas en or, derrière le tir dont les œufs sont vides. C'est la fête à tromper les gens du bout de la semaine. Et on va la boire, la canette sans mousse. Mais le garçon, lui, pue vraiment de la laine sous les faux bosquets. Et la monnaie qu'il rend contient des drôles de pièces, si drôles qu'on n'a pas encore fini de les examiner des semaines et des semaines après, et qu'on les refile avec bien de la peine, et quand on fait la charité. C'est la fête, quoi. Faut être amusant, quand on peut, entre la faim et la prison, et prendre les choses comme elles viennent. Puisqu'on est assis, faut déjà pas se plaindre. C'est toujours ça de gagner. Le tir des nations, le même, je l'ai revu, celui que Lola avait remarqué il y a bien des années passées à présent, dans les allées du parc de Saint-Cloud. On revoit de tout dans les fêtes. C'est des renvois de joie, les fêtes. Depuis le temps qu'elles avaient dû revenir se promener les foules dans la grande allée de Saint-Cloud, des promeneurs, la guerre était bien finie. Au fait, était-ce toujours le même propriétaire au tir? Est-ce qu'il est revenu de la guerre, celui-là? Tout m'intéresse. J'ai reconnu les cibles, mais en plus on tirait à présent sur des aéroplanes. Du nouveau, le progrès, la mode. La noce y était toujours, les soldats aussi, et la mairie avec son drapeau. Tout en somme. Avec même bien plus de choses encore à tirer qu'autrefois. Mais les gens s'amusaient bien davantage dans le manège aux automobiles, des inventions récentes à cause des espèces d'accidents qu'on n'arrêtait pas d'avoir là-dedans et des secousses épouvantables que ça vous donne dans la tête et aux tripes. Il en venait sans cesse d'autres ahuris et gueulailleurs pour se tamponner sauvagement et retomber tout le temps en vrac et se démolir la rate au fond des baquets. Et on ne pouvait pas les faire arrêter. Jamais ils ne demandaient grâce. Jamais ils ne semblaient avoir été aussi heureux. Certains en déliraient. Fallait les arracher à leur catastrophe. On leur aurait donné la mort en prime pour 20 sous qu'ils se seraient précipités sur le truc. Sur les 4 heures devait jouer au milieu de la fête l'Orphéon. Pour le réunir, l'Orphéon, c'était la croix et la bannière, à cause des bistrots qui les voulaient tous, tour à tour, les musiciens. Toujours le dernier manquait. On l'attendait. On allait le chercher. Le temps qu'on l'attende, qu'on revienne, on prenait soif et en voilà encore 2 qui disparaissaient. C'était tout à recommencer. Les cochons en épices, perdus à force de poussière, tournaient en reliques et donnaient de la soif atroce aux gagnants. Les familles, elles, attendent le feu d'artifice pour aller se coucher. Attendre, c'est la fête aussi. Dans l'ombre tressaillent 1000 litres vides qui grelottent à chaque instant sous les tables. Des pieds agités, consentants ou contradicteurs. On n'entend plus les musiques à force de connaître les airs, ni les cylindres poussifs à moteur derrière les baraques où s'animent les choses qu'il faut voir pour 2 francs. Le cœur à soi, quand on est un peu bu de fatigue, vous tape le long des tempes. Bim, bim qu'il fait contre l'espèce de velours tendu autour de la tête et dans le fond des oreilles. C'est comme ça qu'on arrive à éclater un jour, ainsi soit-il. Un jour, quand le mouvement du dedans rejoint celui du dehors, et que toutes vos idées alors s'éparpillent et vont s'amuser enfin avec les étoiles. Il survenait beaucoup de pleurs à travers la fête à cause des enfants qu'on écrasait par-ci par-là entre les chaises sans le faire exprès. Et puis c'est aussi auxquels on apprenait à résister à leurs désirs, aux petits gros plaisirs que leur feraient encore et encore des tours de chevaux de bois. Faut profiter de la fête pour se constituer un caractère. Il n'est jamais trop tôt pour s'y prendre. Ils ne savent pas encore, ces mignons, que tout se paie. Ils croient que c'est par gentillesse que les grandes personnes derrière les comptoirs enluminés incitent les clients à s'offrir les merveilles qu'ils amassent et dominent et défendent avec des vociférants sourires. Ils ne connaissent pas la loi, les enfants. C'est à coups de gifle que les parents la leur apprennent la loi. Ils les défendent contre les plaisirs. Il n'y a jamais de fête véritable que pour le commerce et en profondeur encore et en secret. C'est le soir qu'il se réjouit, le commerce, quand tous les inconscients, les clients, ces bêtes à bénéfice sont partis, quand le silence est revenu sur l'esplanade et que le dernier chien a projeté enfin sa dernière goutte d'urine contre le billard japonais. Alors les comptes peuvent commencer. C'est le moment où le commerce recense ses forces et ses victimes avec des sous. Le soir du dernier dimanche de la fête, la bonne de Martrodin, le bistrot, s'est blessée assez profondément à la main en découpant du saucisson. Vers les dernières heures de cette même soirée, tout est redevenu assez net autour de nous, comme si les choses, décidément, en avaient eu assez de traîner d'un bord à l'autre du destin, indécise, et fussent toutes en même temps sorties de l'ombre et mises à me parler. Mais il faut se méfier des choses et des gens de ces moments-là. On croit qu'elles vont parler, les choses, et puis elles ne disent rien du tout. Et sont reprises par la nuit bien souvent sans qu'on ait pu comprendre ce qu'elles avaient à vous raconter. Moi du moins, c'est mon expérience. Enfin, toujours est-il que j'ai revu Robinson au café de Martrodin ce même soir-là, justement, comme j'allais penser la bonne du bistrot. Je me souviens exactement des circonstances. À côté de nous consommaient des Arabes réfugiés par paquets sur les banquettes et qui somnolaient. Ils n'avaient l'air de s'intéresser en rien à ce qui se passait autour d'eux. En parlant à Robinson, j'évitais de le remettre sur la conversation de l'autre soir, quand je l'avais surpris à porter des planches. La blessure de la bonne était difficile à suturer, et je n'y voyais pas très clair dans le fond de la boutique. Cela m'empêchait de parler, l'attention. Dès que ce fut fini, il m'attira dans un petit coin, Robinson, éteint lui-même à me confirmer que c'était arrangé son affaire, et pour bientôt. Voilà une confidence qui me gênait beaucoup, et dont je me serais bien passé.
Bientôt quoi ? Bah, tu le sais bien. Encore ça ? Devine combien il me donne à présent.
Bah, je ne tenais pas à le deviner.
10 000 ! Rien que pour me taire.
Bah, c'est une somme.
« Me voilà tiré d'affaire, tout simplement, ajouta-t-il. Ce sont ces 10 000 francs-là qui m'ont toujours manqué à moi. Les 10 000 francs de début, quoi, tu comprends ? Moi, j'ai jamais eu rien, à vrai dire, de métier. Mais avec 10 000 francs... » Il avait dû déjà les faire chanter. Il me laissait me rendre compte de tout ce qu'il allait pouvoir effectuer, entreprendre avec ses 10 000 francs. Il me donnait le temps d'y réfléchir. Lui redressé le long du mur, dans la pénombre. Un monde nouveau, 10 000 francs. Tout de même, en y repensant à son affaire, je me demandais si je ne courais pas quelques risques personnels, si je ne glissais pas une sorte de complicité en n'ayant pas l'air de réprouver tout de suite son entreprise. J'aurais dû le dénoncer même. De la morale de l'humanité, moi je m'en fous énormément, ainsi que tout le monde d'ailleurs, qui puis-je. Mais il y a toutes les sales histoires, les sales chichis que remue la justice au moment d'un crime, rien que pour amuser les contribuables, ces vicieux. On ne sait plus alors comment en sortir. J'avais vu ça, moi. Misère pour misère, je préférais encore celle qui ne fait pas de bruit à toutes celles qu'on étale dans les journaux. Somme toute, j'étais intrigué et empoisonné en même temps. Venu jusque-là, le courage me manquait, une fois de plus, pour aller vraiment au fond des choses. Maintenant qu'il s'agissait d'ouvrir les yeux dans la nuit, j'aimais presque autant les garder fermés. Mais Robinson semblait tenir à ce que je les ouvrisse, à ce que je me rende compte. Pour changer un peu, tout en marchant, je portais la conversation sur le sujet des femmes. Il ne les aimait pas beaucoup, lui, les femmes. « Moi, tu sais, je m'en passe des femmes, » qu'il disait, « avec les beaux derrière, leurs grosses cuisses, leurs bouches en cœur et leur ventre dans lequel il y a toujours quelque chose qui pousse, tantôt des mômes, tantôt des maladies, c'est pas avec leur sourire qu'on le paie son terme, n'est-ce pas ? Même moi, dans mon courbi, si j'en avais une de femme, j'aurais beau montrer ses fesses au propriétaire le 15 du mois, ça lui ferait pas me faire une diminution. » C'était l'indépendance qui était son point faible à Robinson. Il le disait lui-même. Mais le patron, Marc Trodin, en avait assez de nos apartés et de nos petits complots dans les coins. « Robinson, les verres, nom de Dieu !» qu'il commanda. « C'est-y moi qui vais vous les laver !» Robinson bondit d'un coup. « Tu vois qu'il m'a pris. Je fais ici un extra. » C'était la fête, décidément. Marc Trodin éprouvait 1000 difficultés à finir de compter sa caisse, ça l'agaçait. Les Arabes partirent, sauf les deux qui sommeillaient encore contre la porte.
Arrêtez-vous, les pauvres gens, les petits, les ratés, les sans pain. Arrêtez-vous, les sans talent. Les sans toit, les sans lit, les sans rien. Pour vous venger de vos blessures, pour vous venger de vos malheurs, pour soulager vos meurtrissures, pour chasser toutes vos rancœurs. Hop la boum dans la belle-mère, hop la boum dans le curé, hop la boum dans le militaire, hop la boum dans la mariée. C'est le massacre des pantins innocents. Avisez bien leur pauvre gueule, puisque vous êtes tous trop veuls pour taper sur les puissants. Regardez-les, les vieux pantins, éclopés, nez tordus, bras cassés, sur féroces, les puritains viennent taper comme des insensés. Le général a eu l'oreille fendue par un simple troufion. Épargnez, bégaye, et boite comme la constitution. Hop la boum dans le notaire, hop la boum dans l'adjudant, hop la boum dans monsieur le maire, hop la boum dans le président. C'est le massacre des pantins innocents. Avisez bien leur pauvre gueule, tête. Tous, tous volent pour taper sur les puissants. Et moi aussi, vivant guignol, j'ai comme eux récolté bien des coups. T'en souviens-tu de l'espagnol, mon amour si cruel et si doux? Pour se venger d'autres maîtresses, tous mes amants m'ont fait souffrir, encore meurtri de leurs caresses, ils m'ont fait mal à en mourir. Hop là, boum, dans la poitrine, hop là, boum, dans le palpitant, hop là, boum, dans la bobine, hop là, boum,
tiens, dans les dents.
Hop la boum, hop la boum, hop la, hop. C'est le massacre des pantins innocents. Visez bien ma pauvre gueule, puisque vous êtes tous trop veulent pour taper sur les puissants.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Et nous voici de nouveau ensemble après le moment musical pour quelques derniers extraits du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Et nous allons retrouver le héros, Bardamu, toujours dans la fête. On peut dire qu'on en a eu alors de la fête plein les yeux, et plein la tête aussi. Bim et boum encore, et que je te tourne, et que je t'emporte, et que je te chahute. Et nous voilà tous dans la mêlée avec des lumières, du boucan et de tout. Et en avant pour l'adresse et l'audace et la rigolade, zim ! Chacun essayait dans son par-dessus de paraître à son avantage, d'avoir l'air déluré, un peu distant quand même, pour montrer aux gens qu'on s'amusait ailleurs d'habitude. Dans des endroits bien plus coûteux. Expensif, comme on dit en anglais. D'astucieux, d'allègres, rigolos, qu'on se donnait l'air malgré la bise humiliante aussi, elle, et cette peur déprimante d'être trop généreux avec les distractions et d'avoir à le regretter le lendemain, peut-être même pendant toute la semaine. Un grand renvoi de musique monte du manège. Il n'arrive pas à la vomir sa valse de Faust, le manège, mais il fait tout ce qu'il peut. Elle lui descend sa valse et elle lui remonte encore autour du plafond rond qui tourbillonne avec ses 1000 tartes de lumière en ampoule. C'est pas commode. Il souffre de musique dans le tuyau de son ventre, l'orgue. Voulez-vous un nougat? Ou préférez-vous un carton? À votre choix. Parmi nous autres, au tir, c'est Madelon. Chapeau relevé sur le front, la plus à droite. « Regarde qu'elle fait à Robinson, je tremble pas, moi. Et pourtant, on a bien bu. » C'est pour vous donner le ton exact de la conversation. Nous sortions donc du restaurant. « Encore un !» Madelon l'a gagné, la bouteille de champagne. « Ping et pong et mouche !» Je lui fais, moi, alors, dans un grand pari qu'elle me rattrapera pas dans l'autodrome. « Chiche !» qu'elle me répond bien en train. « Chacun la sienne !» Et hop, j'étais bien content qu'elle ait accepté. C'était un moyen pour me rapprocher d'elle. Sophie n'était pas jalouse. Elle avait ses raisons. Robinson monte donc derrière avec Madelon dans un baquet et moi dans un autre devant avec Sophie. Et on s'en colle une série de fameuses collisions. Et que je te caboche, et que je te cramponne. Mais je vois tout de suite qu'elle n'aime pas ça, qu'on la bouscule, Madelon. Lui non plus d'ailleurs, Léon. Il n'aime pas plus ça. On peut dire qu'il n'est pas à son aise avec nous. Au passage, pendant qu'on se raccroche aux rambardes, des petits marins se mettent à nous peloter de force, hommes et femmes, et nous font des offres. On grelotte, on se défend,
On rigole. Il en arrive de partout, des peloteurs, et encore avec de la musique et de l'élan et de la cadence. On en prend dans ces espèces de futailles à roulettes de telles secousses qu'à chaque fois qu'on se bigorne les yeux, vous en sortent des orbites. La joie, quoi. La violence avec de la rigolade. Tout l'accordéon des plaisirs. Je voudrais me remettre bien avec elle, Madelon, avant qu'on quitte la fête. J'y tiens. Mais elle répond plus du tout à mes avances. Non, positivement. Elle me boude même. Elle me tient à distance. J'en demeure perplexe. Ça la reprend ses humeurs. Je m'attendais à mieux. Au physique d'ailleurs aussi, elle a changé, et en tout. Je remarque qu'à côté de Sophie, elle perd, elle est terne. L'amabilité lui allait mieux, mais on dirait qu'elle sait à présent des choses supérieures. Ça m'agace. Je la regiflerais volontiers pour voir si elle reviendrait ou qu'elle me dise ce qu'elle sait de supérieur à moi. Mais sourire, on est dans la fête. C'est pas pour pleurnicher, il faut fêter. Elle a trouvé du travail chez une tante, qu'elle raconte à Sophie après ça, pendant qu'on marche. Rue du Rocher, une tante corsetière. Faut bien la croire. C'était pas difficile à se rendre compte, dès ce moment-là, qu'en fait de réconciliation, c'était une entrevue ratée. Et pour ma combinaison aussi, c'était raté. C'était même une faillite. On avait eu tort de chercher à se revoir. Sophie, elle, ne comprenait pas encore bien la situation. Elle ne sentait pas qu'on venait seulement en se revoyant de compliquer les choses. Robinson aurait dû me le dire, lui, me prévenir, qu'elle était butée à ce point-là. C'était dommage. Bien, zim, zim, toujours et quand même, et en avant pour le caterpillar, comme on l'appelle. C'est moi qui propose, c'est moi qui paie. Question de tenter de me rapprocher une fois de plus de Madelon. Mais elle se défile constamment. Elle m'évite. Elle profite de la foule pour grimper sur une autre banquette devant avec Robinson. Je suis refait. Des vagues et des remous d'obscurité nous ahurissent. Rien à faire que je me conclue tout bas. Et Sophie est enfin de mon avis. Elle comprend que j'avais été en tout ça victime encore de mon imagination cochonne. Tu vois, elle est vexée. Je crois qu'on ferait mieux de les laisser tranquilles à présent. Nous, on pourrait peut-être aller faire un tour au Chabanais avant de rentrer. C'était une proposition qui lui plaisait bien à Sophie, parce qu'elle avait entendu parler bien des fois du Chabanais quand elle était encore à Prague, et elle ne demandait pas mieux que de l'essayer le Chabanais à présent, pour pouvoir juger par elle-même. Mais nous calculâmes que ça nous reviendrait trop cher, le Chabanais, d'après la somme d'argent que nous avions emportée. Il a fallu donc nous réintéresser à la fête. Robinson, pendant qu'on était dans le Caterpillar, avait dû avoir une scène avec Madelon. Ils en descendirent tout à fait agacés tous les deux de ce carrousel. Décidément, elle n'était pas à prendre ce soir-là avec des pincettes. Pour calmer et arranger les choses, je leur proposais une distraction bien occupante, un concours de pêche au goulot de bouteille. Madelon s'y mit en rechignant. Elle nous gagna cependant tout ce qu'elle voulut. Elle arrivait avec son anneau juste au-dessus du bouchon et elle te l'enfilait sur le cou de la cloche, clac, clic, et ça y était. Le marchand n'en revenait pas. Il lui remit en l'eau un demi-grand-duc de Malvoisin. C'est dire si elle était à droite. Mais quand même, elle n'était pas satisfaite. Elle ne la boirait pas, qu'elle nous a annoncé tout de suite. Que c'était du mauvais. C'est Robinson, donc, qui se la déboucha pour la boire. Hop, en coup de trompette encore. C'était drôle de sa part parce qu'il ne buvait pour ainsi dire jamais. On passe après ça devant la noce en zinc. Pan, pan, on s'explique tous dessus avec des balles dures. C'est triste, ce que moi je ne suis pas habile. Je le félicite, Robinson, il me gagne à n'importe quel jeu lui aussi. Mais ça ne le fait pas sourire non plus, son adresse. On dirait qu'on les a entraînés tous les deux dans une véritable corvée, décidément. Pas moyen de les ranimer, de les dérider. Mais c'est à la fête qu'on est, que je hurle, moi, pour une fois que j'étais à bout d'invention. Mais ça leur était égal, que je les stimule et que je leur répète ces choses dans les oreilles. Ils ne m'entendaient pas.
Et la jeunesse alors, que je leur demandais, qu'est-ce qu'on en fait? Elle s'amuse donc plus, la jeunesse? Qu'est-ce que je dirais, moi, qui ai 10 piges de plus que tous vous autres?
Ils me regardaient alors, Madelon et lui, comme s'ils s'étaient trouvés devant un intoxiqué, un gazé, un baveux, et que ça vaille même plus la peine qu'on me réponde. Comme si c'était plus la peine d'essayer même de me parler, que je comprendrais plus à coup sûr, quoi qu'ils puissent m'expliquer, rien à rien. Peut-être qu'ils ont raison, que je me suis dit alors, et j'ai regardé bien inquiet tout autour de nous les autres gens. Mais ils faisaient ce qu'il fallait, eux, les autres gens, pour s'amuser. Ils n'étaient pas là comme nous à branlocher des petits chagrins, pas du tout. Ils en prenaient, eux, les gens de la fête, pour 1 franc par ici, pour 50 centimes, de la lumière, des boniments, de la musique et des bonbons, comme des mouches qu'ils s'agitaient, avec même en plus leurs petites larves entre les bras, bien livides, blafards, bébés, qui disparaissent à force d'être pâles dans le trop de lumière. Un peu de rose, seulement, autour du nez, qu'il leur restait aux bébés, à l'endroit des rhumes et des embrassades. Le zinc du canal ouvrait juste avant le petit jour à cause des bateliers. L'écluse commence à pivoter lentement sur la fin de la nuit. Et puis c'est tout le paysage qui se ranime et se met à travailler. Les berges se séparent du fleuve tout doucement, elles se lèvent, se relèvent des deux côtés de l'eau. Le bouleau émerge de l'ombre. On recommence à tout voir, tout simple, tout dur. Les treuils ici, les palissades au chantier là-bas, et loin dessus la route, voici que reviennent de plus loin encore les hommes. Ils s'infiltrent dans le jour sale par petits paquets transis. Ils se mettent du jour plein la figure pour commencer en passant devant l'aurore. Ils vont plus loin. On ne voit bien d'eux que leur figure pâle et simple. Le reste est encore à la nuit. Il faudra bien qu'ils crèvent un jour, eux aussi. Comment qu'ils feront? Ils montent vers le pont. Après, ils disparaissent peu à peu dans la plaine, et il en vient toujours des autres, des hommes, des plus pâles encore, à mesure que le jour monte de partout. À quoi qu'ils pensent? De loin, le remorqueur a sifflé. Son appel a passé le pont. Encore une arche, une autre, l'écluse. Un autre pont, loin, plus loin. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes, et la ville entière, et le ciel, et la campagne, et nous, tout qui l'emmenait, la Seine aussi, tout. On n'en parle plus. Nous avons donc terminé, en cette fin de semaine, ces quelques extraits du roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour d'autres lectures en liberté. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.